Fuck this poppy, think that I'm playing. Smoke a blunt with your ass. Smoke a blunt with your ass. Fuck this poppy, think that I'm playing. Smoke a blunt with your ass. Smoke a blunt with your ass. Fuck this poppy, think that I'm playing. Smoke a blunt with your ass. Smoke a blunt with your ass. Fuck this poppy, think that I'm playing. Smoke a blunt with your ass. Smoke a blunt with your ass.
This is the Amanda Galas. You are listening to CKUT 90.3 FM.
Vous écoutez En jasant près du fleuve, un balado anticolonial créé ici en territoire Mi'kmaq et Wolastoqué, au cœur de la Confédération Wabanaki. Nous, on est des colons et colonnes basés à Trois-Pistoles qui ont envie de s'éduquer et braver ensemble notre passé et présent colonial pour rêver à une cohabitation saine et respectueuse et un futur anticolonial.
Salut à vous! Je me nomme Antoine et je vous accompagnerai aujourd'hui à travers ce quatrième épisode d'En jasant près du fleuve. Ou, en ce moment, on pourrait quasiment dire en jasant sur le fleuve. J'ai l'impression qu'on pourrait marcher jusqu'à la côte nord sur cette banquise. Bien que les journées allongent, un bon froid mordant de vent nous rappelle qu'on n'est pas sorti de l'hiver. Un hiver donc ben frette, un hiver donc ben enneigé et isolant. Mais les éperlans mordent à l'embouchure de la Trois-Pistoles, et les bruants des neiges, avec leur chorégraphie spectaculaire, nous offrent du beau, du bon. Bien que j'adore l'hiver, les poêles à bois et le ski de fond, je ressens un vide, un manque de présence dans notre rapport culturel chez les allochtones avec l'hiver. Comme se boquer au territoire, une peur de l'hiver. Peut-être que dans un monde différent de celui-ci, hors du capitalisme et du colonialisme, notre rapport serait bien différent. Joséphine Bacon nous disait, pendant le Festival des Grandes Gueules à Trois-Pistoles cet automne, que l'hiver, c'était entre autres le temps de raconter des histoires. Voilà une piste, assurément. D'ici là, je remercie la neige de storer autant d'eau douce sur le territoire. Et je remercie la glace pour nous permettre la pêche blanche. Et shout-out aux aurores boréales. On vous présente aujourd'hui un épisode portant sur l'éducation. Comme d'habitude, on survolera l'actualité des communautés autochtones au soi-disant Canada, avec Dim au micro. Puis, suite à une œuvre musicale, on entendra l'entrevue de Steph avec Nicholas Lucas Rancourt, qui discuteront d'enseignement du système scolaire québécois et de pédagogie Mi'kmaq et Anishinaabe. Bienvenue dans l'équipe, Steph. L'entrevue sera entrecoupée d'un segment musical avec Kim, adepte du son. Merci d'être là. Merci de votre écoute et de votre ouverture. Bon épisode.
Les fouilles pour trouver les sépultures d'enfants décédés dans les pensionnats canadiens continuent à travers le territoire. La Première Nation Nemgis, située au large des côtes du nord-est de l'île de Vancouver, a annoncé le début d'une grande fouille du site de l'ancien pensionnat St. Michael's, qui fut en opération de 1878 à 1974. De son côté, la Première Nation de Keeskus, dans l'est de la soi-disant Saskatchewan, a trouvé 54 tombes potentielles sur le site de deux anciens pensionnats, soit Fort Pelly et Saint-Philip. Un camp de trapage subventionné à Wabaska, en soi-disant Alberta, permet à plusieurs jeunes de revenir sur leur territoire, d'apprendre les rouages du piégeage, d'exercer leurs droits et de se familiariser avec le programme de certification. S'étalant sur une période de 3 jours, ce camp vise à former et attirer les jeunes de la communauté pour que ceux et celles-ci gagnent en expérience et puissent reprendre les lignes de trappe des aînés de leur communauté. La communauté Innu d'Unamenshipu est en deuil après avoir été secouée par une épidémie de COVID-19. L'inaccessibilité aux soins médicaux et l'achalandage dans les hôpitaux ont entraîné le décès de plusieurs aînés. C'est une énorme perte de savoir traditionnel et de connaissances pour la communauté. Le nouveau film « Everything is Connected, The Dog Cut Hand » établit un lien direct entre les politiques gouvernementales de l'époque des pensionnats, la rafle des années 60 et les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Ce projet documentaire est mené par la 60 Scoop Indigenous Society of Saskatchewan et Iskwewok et Wichiwitoshik, un groupe d'aide et de sensibilisation de la violence faite aux femmes autochtones. La rafle des années 60 désigne une période d'enlèvement à grande échelle de milliers d'enfants autochtones pour qu'ils soient adoptés par des familles blanches suite à une modification de la loi sur les Indiens, accordant aux provinces toute autorité pour gérer le bien-être des enfants autochtones. Vous trouverez dans les notes de l'émission le lien pour visionner le film gratuitement sur Internet. La Cour d'appel a tranché au mois de février dernier que le gouvernement du Québec n'a pas réussi pleinement à prouver l'inconstitutionnalité de la loi fédérale C-92. Cette loi, présentée en février 2019, avait comme objectif de créer une législation pour que les Premières Nations, les Inuits et les Métis aient une meilleure autonomie dans le domaine du droit de l'enfance. Toutefois, cette décision ne s'applique pas aux articles 21 et 23, laissant ainsi la porte au gouvernement du Québec pour contester toute loi sur l'enfance et la famille autochtone estimée en conflit avec les lois provinciales actuelles. Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, affirme qu'en vertu du droit de l'autonomie gouvernementale, les peuples autochtones sont les mieux placés pour assurer le mieux-être de leur peuple et plus particulièrement de leurs enfants, et que la province de Québec devra mieux comprendre que cette volonté politique ne disparaîtra pas et que toute ingérence sera fortement dénoncée. En plus d'être le mois de l'histoire des Noirs, février est aussi le mois de l'Inuktitut. L'Inuktitut fait partie du vaste continuum linguistique inuit, allant de l'Alaska jusqu'au Groenland. Sur leur territoire, 65% des Nunavummiut déclarent que l'Inuktitut est leur première langue. Les mots en Inuktitut sont profondément liés à l'environnement et à la faune qui entoure les Nunavummiut. Par exemple, au Nunavik, février se dit Avuniti, une référence aux phoques barbus de la région qui, selon les aînés, faisaient des fausses couches au cours de ce mois. La plateforme de financement GoFundMe a récemment décidé de supprimer une campagne lancée par des membres de la nation Gixan visant à construire une maison longue qui puisse servir de centre d'organisation politique, de point de distribution de nourriture et de matériel éducatif, dans une optique de support aux diverses luttes autochtones en cours et à venir. Alors que GoFundMe a mis fin à la campagne du Convoi de la Liberté pour violence et harcèlement, aucune raison exacte n'a été fournie aux membres de la nation Gixan, affirmant seulement que la campagne ne correspondait pas au code de conduite. Colin Sutherland-Wilson, un des organisateurs de la campagne, s'inquiète que dorénavant la plateforme de crowdfunding sera très sévère avec n'importe quelle protestation en lien avec la loi canadienne, que ce soit les vaccins ou n'importe quelle cause souveraineté autochtone. Plusieurs activistes autochtones dénoncent les doubles standards que la police et le gouvernement entretiennent face aux luttes autochtones. La différence entre la répression qu'ont subi plusieurs communautés durant la vague de solidarité pour les Wet'suwet'en de l'hiver 2019-2020 et la tolérance des blocages au centre-ville d'Ottawa, ou encore des blocages aux frontières par les manifestants, en dit long sur les privilèges qui influencent les prises de décision des autorités. Michelle Robinson, défenseur des droits des Premières Nations en soi-disant Alberta, affirme « Le fait qu'ils acceptent même de négocier avec eux montre la différence entre les Autochtones et les non-Autochtones, parce que nous n'obtenons même pas de négociation, nous n'obtenons que la violence. » L'Université du Manitoba recevra plus de 16 millions de dollars pour permettre à des étudiants et étudiantes autochtones de poursuivre leur parcours universitaire sans quitter leur communauté. Sous forme de centre d'apprentissage, ceux-ci auront accès à un meilleur Internet, des laptops, des livres et un endroit pour étudier. La Première Nation Pinémoutang sera la première à bénéficier de ce programme. Selon Catherine Cooks, vice-présidente autochtone à l'Université du Manitoba, il est primordial d'avoir ce genre de programme, car nous avons des lacunes et des obstacles au sein du système qui dépassent la capacité d'un individu à les surmonter. Le livre « The Boy from Bozwa, A Life in Indian Education » raconte le parcours de Cecil King, un célèbre éducateur Odawa, originaire de la première nation non cédée de Wikwamikon en soi-disant Ontario. Cecil King, qui a travaillé comme éducateur pendant plus de 60 ans, a contribué à la création de programmes d'enseignement liés aux cultures autochtones traditionnelles et à la mise en place de cours de langue des Premières Nations dans les écoles primaires et secondaires.
Jamo Teyan Askik Nebikegen eskizin Gipizken Mujik gipe pizgun Hey, hey, hey Kirigani gawe
à tous et à toutes. Mon nom est Steph et je suis nouvellement une camarade de l'équipe du Balado. Et ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette entrevue qui portera sur le thème de l'éducation, plus particulièrement sur la pédagogie Mi'kmaq et Anishinaabe. Donc, mon invité aujourd'hui s'appelle Nicholas Lucas Rancourt. Donc, salut Nick!
Bonjour, Koué!
Ça fait très, très, très plaisir de te passer en entrevue aujourd'hui parce qu'au fond, moi et toi, on se connaît. Donc, Nick et moi, nous nous sommes rencontrés à l'Université du Québec en Outaouais. Les deux, nous avons étudié en éducation. Donc, moi, j'ai étudié en enseignement du français au secondaire et toi, tu étais en enseignement de l'univers social. Et au fond, nous nous sommes liés d'amitié au travers de l'implication étudiante et citoyenne. Et puis, au fond, même si nos chemins se sont un peu séparés sur le territoire, on a gardé contact. Et puis, c'est ça, on en est aujourd'hui à faire une entrevue ensemble. Donc, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu dans tes mots?
Oui, alors, je suis nous, ou Mi'kmaq, et québécois. J'ai grandi en territoire Anishinaabe toute ma vie. Ma mère aussi, donc je pense être un petit peu, j'espère en tout cas être un petit peu considéré Anishinaabe aussi par mes relations. J'ai grandi à Gatineau, c'est là que j'ai étudié. En ce moment, j'ai déposé mon mémoire en éducation, donc un mémoire portant sur la pédagogie Mi'kmaq et Anishinaabe, particulièrement ce qui entoure le récit de la création.
Super, merci, c'est très intéressant tout ça, et félicitations d'ailleurs. Donc, avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, Pourrais-tu nous parler un peu de ton rapport au territoire?
Oui. Comme j'ai grandi en territoire Anishinaabe, beaucoup de mes relations ont été avec des personnes Anishinaabe. Même chose pour ma mère qui a aussi grandi une partie de sa vie en communauté Anishinaabe. Ça reste que mes ancêtres, du moins mes ancêtres Mi'kmaq, ne viennent pas de ce territoire-là. Donc le territoire, mon territoire ancestral a toujours été pas mal loin et pas mal inaccessible aussi. Ce qui va de même aussi pour les communautés Mi'kmaq. Aussi, mon rapport au territoire est fortement teinté du fait que j'ai grandi en milieu urbain.
Mm-hmm.
Milieu urbain qui m'a pas mal toujours été dit qui était temporaire ou qui était moins bon que le territoire traditionnel, que ce soit la forêt ou la campagne, qui c'était un endroit d'opportunité économique, mais pas un endroit nécessairement accueillant.
Mm-hmm.
Ayant grandi toute ma vie en territoire urbain, c'est un drôle de rapport à mon territoire environnant de le voir comme étant plutôt négatif.
Mm-hmm. Grandir en ville, ça nous déconnecte un petit peu, là, des fois, de nos racines. Mais je sais aussi que tu essaies de te rapprocher tranquillement. Là. Donc, tu sais, maintenant, tu viens un peu plus proche de la forêt.
Oui, bien, s'éloigner un peu de la ville, se rapprocher un peu de la forêt, mais par la propriété privée, qui est un peu limitant puis un peu contradictoire.
Oui. Là, tu l'as déjà nommé. Là. Donc, toi, tu es une personne autochtone, un autochtone urbain qui a fréquenté l'école publique québécoise.
Oui.
Et moi, je me demandais, question très large, là, mais au fond, quel était ton rapport à toi à l'éducation et à l'école?
Oui, mon éducation formelle dans le milieu public québécois francophone, je dirais que c'était un peu contradictoire. Venant d'une famille justement qui est métissée, mais qui est aussi anglophone, aller dans le système public québécois francophone allait pas mal contre qu'est-ce que ma famille disait, mon éducation qu'on pourrait dire informelle, là, entre guillemets. Mais j'ai quand même, ma mère m'a beaucoup poussé, venant d'un milieu appauvri, m'a beaucoup poussé à être bon à l'école, parce que pour elle, c'était d'augmenter de classe sociale en bout de ligne, d'avoir des meilleures opportunités. Alors à l'école, j'étais pas mal un nerd. J'étais pas mal un bolé, toujours les bonnes notes, toujours des bonnes relations avec les enseignantes puis les enseignants. Par contre, pour bien faire dans ce système-là, je me suis départi de beaucoup de mes enseignements, ma culture,
mm-hmm.
jusqu'à un point à ne plus vouloir m'associer ou m'identifier avec ma famille maternelle.
OK. Au secondaire, comme?
Oui, au secondaire, parce que qu'est-ce que je voyais? Je voyais que, par exemple, l'histoire québécoise, les Autochtones, c'était passéiste, puis
ouais.
les gens avaient des stéréotypes aussi envers les Autochtones. Donc, pour moi, m'identifier avec ma famille maternelle, c'était de potentiellement m'associer aussi avec ces stéréotypes-là, la criminalité, la consommation de drogue, des trucs comme ça. Alors que m'associer avec ma famille québécoise, c'était mieux. Parce que pour moi, en plus, comme on n'enseignait pas... Comme on enseignait une version idéalisée des Québécois,
mm-hmm.
pour moi, ces problèmes-là n'existaient pas chez les Québécois. Alors c'est ça, l'école, autant que j'étais bon à l'école, et que ça m'a permis éventuellement aussi d'aller à l'université et réellement d'augmenter de classe économique quand même. Ça m'a aussi fait renier une bonne partie de ma famille, une bonne partie de mes racines.
Ouais.
Mais en même temps, c'est au cégep avec un prof québécois qui enseignait l'histoire des Amériques, mais voulait vraiment enseigner les points de vue autochtones. C'est là que ça m'a vraiment... Donc, comme l'école me détachait de mes racines, mais c'est l'école aussi qui m'a ramené à ces racines-là. Puis à partir de là, j'ai été chercher aussi l'éducation ailleurs, dans la famille.
Mm-hmm. Ouais, on a peut-être le même prof là, qui nous a ouvert les yeux, parce que moi aussi, effectivement, c'est vraiment au cégep, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité actuelle, coloniale et le passé aussi. Là. Donc, quelque chose qu'on ne nous avait pas enseigné en histoire particulièrement. Là, on ne parle pas vraiment de colonisation, là, même que ça nous craint que ça craint un peu notre nationalisme intérieur, là, les cours secondaires.
Oui. J'étais un nationaliste québécois aussi au secondaire, donc on peut voir comment ça a été fort. Pas que j'étais plus peut-être sur le nationalisme civique, une république québécoise, des trucs comme mm-hmm. ça. Le Cégep m'a aussi donné l'occasion d'assister à une conférence donnée par des survivantes et des survivants de pensionnats, quelque chose que j'avais pas appris, que j'étais pas au courant. Mm. Et ça m'a permis vraiment de passer un peu de la haine puis du dédain par rapport à ma famille, à de l'empathie. Puis à partir de là, j'ai pu mieux comprendre les violences qui sont autant génétiques, spirituelles, sociales, etc.
OK. Puis c'est à partir de... Fait que plus au niveau du cégep que tu as vraiment ressenti plus une grande fierté puis une curiosité à l'égard de ton héritage autochtone.
Oui. C'est ça. Le cégep m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à cette identité-là. Mais je te dirais aussi... Mon expérience politique étant dans les milieux nationalistes québécois qui ont été pas mal, qui rejetaient pas mal autant mes origines anglophones, anglaises qu'autochtones. Donc là, ça m'a poussé un peu. Autant d'un côté, je me suis senti rejeté par les Québécois que j'ai tant essayé de faire partie d'eux, puis que je suis, parce mm-hmm. que je suis Québécois aussi. Autant j'ai développé aussi une fierté de plus en plus. Puis une compréhension par rapport à mon héritage Mi'kmaq.
Mm-hmm. Et puis, dans ton parcours, quand est-ce que s'est développé ton désir de devenir enseignant au secondaire en géographie et en histoire?
Ça faisait longtemps que je voulais être enseignant. Comme j'étais bon à l'école, j'aimais beaucoup particulièrement toutes les... l'univers social, histoire, géographie, aussi l'éthique qui est apparue pendant mon secondaire. Puis comme je fonctionnais bien dans l'école, je me disais que j'allais bien fonctionner aussi en tant qu'enseignant. Puis j'ai aussi... j'aime beaucoup ça, enseigner aussi. Donc, c'est pas juste une question de contenu, mais j'ai toujours eu la piqûre pour ça, là.
OK, c'est cool. Et puis, ben tantôt, tu riais un peu, là. J'imagine que c'est parce qu'au fond... comme moi, aujourd'hui, tu n'enseignes pas dans les écoles secondaires. Tu as quand même complété ton bac, mais je me demandais ce qui faisait en sorte que tu avais décidé de ne pas poursuivre ton cheminement professionnel comme tu l'avais prévu.
J'avais idéalisé qu'est-ce qui était d'être un enseignant. À l'université aussi, tout le monde dans les salles de classe, on idéalisait pas mal ce qui était être un enseignant. Mais rendu dans les milieux de stage, plus tard aussi avec la suppléance, je me suis rendu compte comment l'école, autant dans sa structure que dans le contenu, est profondément coloniale. Mm-hmm. Comment elle continue avec une propagande nationaliste québécoise. Puis que tu n'as pas vraiment de liberté. Surtout à l'université, ils aiment ça dire que tu as de la liberté d'enseigner, de la liberté dans ton enseignement, que tu as des marges de manœuvre, mais tu n'en as vraiment pas beaucoup. Tu es limité par le programme québécois. Tu es limité par les manuels. Tu es limité aussi par ton équipe école. Si tu es une personne autochtone dans une équipe école majoritairement blanche, forte chance que tu ne pourras jamais faire avancer tes idées parce qu'ils voudront avoir une certaine cohérence dans l'ensemble de leurs enseignements.
Mm-hmm.
C'est pas à eux autres de changer. L'école est un milieu extrêmement conservateur aussi.
Mm-hmm. Oui, puis moi aussi, là, un peu tout ce que tu as nommé, c'est des raisons pour lesquelles aujourd'hui je ne travaille, malheureusement, je ne travaille pas dans les écoles publiques. Puis j'ajouterais même peut-être le manque de ressources qui fait en sorte qu'on arrive dans les écoles, on a des idées, on a des aspirations pour nos élèves. Des idées de projet, il nous manque de ressources pour les matérialiser, toutes ces idées-là. Donc, c'est vraiment... Puis là, ça, on n'a pas nommé non plus là, un peu la détresse psychologique du personnel enseignant, des élèves aussi, là, en fait, de beaucoup de membres de notre société. Mais en tout cas, personnellement, moi, qui d'autres raisons pour lesquelles j'ai décidé de pas enseigner, hein, du moins pas en ce moment. Donc aujourd'hui, Nick, à la lumière de tout ton parcours en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant suppléant, et en tant qu'étudiant à la maîtrise également en éducation, comment te positionnes-tu par rapport au cadre scolaire québécois actuel?
Je crois que c'est un système qui est fait pour être colonial, c'est-à-dire qui est fait pour être raciste, qui est fait pour être capitaliste, donc pour reproduire autant les classes économiques que reproduire les rapports de force raciaux par rapport à l'environnement aussi, etc. Donc, pour moi, c'est un système qui est à défaire. On n'aura pas le choix, je pense, de défaire puis de construire quelque chose de nouveau parce que c'est la façon de penser derrière le système nous amène vers un mur. Puis j'espère que ça va être avant de rentrer dans le mur, mais faudra changer pour que les générations futures aussi puissent mieux s'adapter aux changements drastiques qui vont arriver.
Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que, et moi et toi, on est rentrés dans le bac en se disant, tu sais, OK, on va changer le système, là, mais en fait, comme tu l'as dit, ce milieu-là, il est très conservateur. La mobilisation, elle est extrêmement difficile. Donc, tu sais, moi, rapidement, je me suis rendu compte qu'au fond, si je voulais porter mes revendications, essayer d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, au fond, c'est très, très, très difficile, là.
Moi, j'aimerais ça qu'on commence à développer... J'aime pas ça dire des modèles alternatifs parce qu'ils sont pas alternatifs. Souvent, ils sont même plus vieux que le modèle actuel dominant. Mais j'aimerais ça qu'on développe nos propres lieux d'enseignement, nos propres lieux d'apprentissage. Parce qu'on peut faire ça par, on peut dire, le hacking, utiliser les ressources du système même. Donc, créer une école et demander de l'autorisation du gouvernement. Ça peut être une forme, ça peut être des camps de jour, ça peut être des camps d'été, etc.
Les OBNL.
Oui, je pense que l'important, en premier, ça va être de montrer l'exemple puis montrer que c'est possible. Mm-hmm. C'est possible d'avoir un enseignement différent. Pas nécessairement qui est exclusif non plus aux personnes autochtones. J'aime bien l'idée aussi de Robin Kimmerer qui parle de naturalisation, un peu d'autochtoniser les personnes allochtones, pas les rendre nécessairement des cultures Mi'kmaq, Anishinaabe, tout ça, mais qui puissent vivre en harmonie dans notre environnement, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'Autochtones, y compris moi, là, je veux dire, quand on est embarqué dans ce système-là. Je pense qu'en montrant l'exemple, en utilisant les ressources aussi que le système a avant de mourir, ben on peut se préparer aussi à la chute, aux failles du système.
Quand on parle de modèle alternatif, quel genre de modèle as-tu en tête?
Ouais, moi, quand je parle de ces modèles-là, je parle surtout de ceux qui sont issus des cultures autochtones de la région. Donc, moi, c'est plutôt Mi'kmaq et Anishinaabe. Mais il y a pas mal de similarités aussi avec d'abord les autres groupes algonquiens. Mais aussi avec l'ensemble des groupes autochtones du moins d'Amérique du Nord.
OK. Fait que c'est vraiment ce qui t'appelle le plus en ce moment. Ce sont ces modèles pédagogiques-là. Mm-hmm. Peux-tu nous parler un peu plus de ces modèles qui t'intéressent?
Oui. Bon, tout d'abord, par modèle pédagogique, moi, j'entends les idées qui viennent structurer et inspirer les personnes enseignantes dans leur choix, dans leur relation avec, que ce soit les apprenants, les apprenantes ou les autres enseignants. Ça peut être dans le choix du contenu, ça peut être dans comment il est enseigné. Donc, on est plutôt dans l'abstrait, on est vraiment dans les idées, que ce soit les finalités, les objectifs, la nature du savoir, etc.
On peut définir la pédagogie comme étant les interventions de l'enseignante ou l'enseignant dans une situation d'apprentissage. Donc, on s'intéresse vraiment à la manière d'enseigner en général.
Mm-hmm. Y compris le pourquoi. En éducation, dans les sciences de l'éducation, on a aussi le terme didactique qui est plus un focus sur vraiment les activités spécifiques, que sont faites pour apprendre, pour enseigner. Moi, j'ai plus été chercher qu'est-ce qui t'amène à choisir ces activités-là.
Ben, dis-nous donc, selon ces modèles pédagogiques-là, quelles sont les finalités éducatives? Donc, pourquoi éduque-t-on, ou en d'autres mots, quels sont les buts de l'éducation?
Alors, les buts de l'éducation, c'est sûr qu'ils ont changé avec le temps. L'éducation traditionnelle, au départ, c'est une éducation dont la finalité, c'est la survie. On est dans des sociétés qui sont précaires, quoique la nôtre aussi est précaire. On a une illusion d'être confortable. Mais bon, c'est une éducation qui est de survie. Pour bien survivre, il faut suivre, le tout dépendamment des cultures, des communautés. Par exemple, pour les communautés Anishinaabe, ça va être le Mino Bimadizuin, la bonne vie, ce qui est une vision du monde, dans le fond. Donc, on développe un être humain Anishinaabe pour fonctionner dans le monde, traditionnellement pour survivre dans le monde. Donc, ça inclut les valeurs, ça inclut les normes sociales, ça inclut se nourrir, se loger, etc.
Est-ce qu'on pourrait comparer ça à un objectif lié à comme l'autonomie, tu sais, être autonome et heureux?
Oui, c'est de viser pas mal l'harmonie. Parce que l'autonomie, tout dépendamment comment tu as défini ça aussi, est-ce que l'autonomie existe vraiment quand on est une extension de notre environnement? Mm-hmm. Là, aujourd'hui, les pédagogies autochtones, surtout dans des contextes scolaires ou universitaires, vont être plutôt tournées vers des finalités, par exemple, est-ce qu'on veut une éducation qui est décoloniale, qui est antiraciste? Donc là, les finalités, c'est de défaire les structures, les rapports de force. Est-ce qu'on essaye de faire revivre ou de faire continuer une langue autochtone, de transmettre des savoirs? Là, on est un peu, on revient peut-être un peu en mode survie, mais là, c'est la survie culturelle aussi, la survie de la culture et des savoirs qui viennent avec. Là. Mm-hmm. C'est le vivre ensemble. Il y a quand même une individualité, une autonomie, mais elle est responsable et elle fait partie, elle n'est pas en opposition avec le collectif.
OK. Avec ce que tu me dis, là, c'est vraiment différent de la triple mission du PFEQ, qui est le programme de formation de l'école québécoise. Donc, les trois objectifs de ce programme-là, c'est un, instruire. Donc, on fait vraiment référence aux connaissances. La deuxième mission, qui est socialiser, qui s'intéresse plus aux relations interpersonnelles. Tu sais, on ne parle pas vraiment des relations avec la nature. Et la troisième mission, qui est qualifiée, qui fait vraiment référence à le marché du travail, donc former des travailleurs. Donc, c'est les objectifs, les finalités dont toi, tu me parles dans tes modèles sont très différents de ce qu'on voit là, dans notre système actuel.
Mais je dirais qu'il y a quand même des similarités parce qu'ultimement, l'école québécoise, elle veut que les élèves survivent dans la société québécoise.
Mm-hmm.
Elle présente une vision du monde, on y apprend les valeurs, etc. On y apprend, ben, comme dans le fond, comment avoir un emploi aussi pour ultimement se loger, se nourrir, etc. La seule différence, je pense, c'est que la société québécoise n'est pas faite, ne va pas survivre.
Mm-hmm.
N'est pas, justement, comme on est déconnecté de l'environnement, oui, on peut survivre dans la société québécoise avec l'enseignement qu'on a à l'école, mais combien de temps la société québécoise va survivre?
Et puis, à la lumière de ces objectifs-là, de ces finalités éducatives-là, qu'est-ce qui est enseigné plus particulièrement? Ou en d'autres mots, quelle est la nature du savoir qui est partagé?
Oui, bien, le savoir autochtone, il est pas mal difficile à définir, déjà par la diversité des cultures. Des fois, était défini comme subjectif, narratif, oral, local, expérimentiel. Il est souvent vu comme étant inférieur par opposition au savoir occidental.
Mm-hmm.
Donc, mais le savoir autochtone, William Komanda a utilisé un terme qui est le savoir géocosmique. Donc, c'est un savoir qui a été développé et transmis au cours des générations par des gens qui est en contact avec l'environnement, leur environnement.
Mm-hmm.
Donc, c'est des savoirs issus de l'environnement, c'est des savoirs issus du cosmos, puis qui sont transmis au fil des générations.
Mm-hmm.
Il n'y a pas nécessairement de limite à cette définition-là. d'où vient le savoir, selon cette définition de William Commander. Donc, le savoir géocosmique, c'est un terme que j'aime bien.
Savoir géocosmique, qui diffère peut-être selon l'endroit où on est sur le territoire, qui diffère selon les valeurs de la communauté.
Oui, qui va différer selon la langue aussi, parce que les langues ne fonctionnent pas toutes de la même façon. C'est aussi un savoir qui va inclure autant les savoirs qu'on pourrait dire physiques, scientifiques, que les savoirs émotionnels ou spirituels aussi. Donc, c'est vraiment un savoir qui est englobant. Je dirais même que c'est un savoir qui est moins restreint que les savoirs scientifiques.
Mm-hmm.
C'est peut-être un peu aussi pour ça qu'ils sont vus comme étant inférieurs. C'est parce qu'ils englobent plus de choses que qu'est-ce que les savoirs scientifiques seraient prêts à reconnaître.
Mm-hmm. J'imagine que c'est ça, il n'y a pas la même méthodologie non plus. Là.
Non. Donc, les méthodologies autochtones sont souvent liées ça avec l'interaction avec l'environnement, l'interaction avec les esprits, dans les rêves. Donc, c'est vraiment une question d'interaction, de mouvement. C'est pour ça aussi que c'est un savoir qui est toujours en développement, tant au niveau individuel qu'à un niveau communautaire. Pour beaucoup de communautés autochtones, le savoir va être subjectif, il va toujours l'être, parce que c'est toi qui l'interprètes.
Mm-hmm. Puis, comment perçois-tu cette prétention de l'objectivité-là, du savoir occidental?
Moi, je crois que, en fait, c'est un symptôme du fait que le savoir occidental est centré sur l'humain, est anthropocentré. Parce que là, l'humain se met dans une position de supériorité par rapport à l'ensemble de l'univers.
Mm-hmm.
Se dit qu'il peut observer, il peut le décrire, il peut découvrir la vérité de cet univers-là. Univers qui est aussi séparé. Ouais, c'est un univers qu'on observe, pas dans lequel on participe nécessairement. Je dis pas qu'il n'y a pas des scientifiques maintenant qui essaient de faire autrement, mais je pense que c'est la plus grande faille des savoirs occidentaux. Ils n'ont pas toujours été comme ça non plus. Quelque chose qui s'est développé dans les derniers siècles.
Je suis pas certaine d'avoir bien compris toute la notion de savoir géocosmique.
Donc, le savoir géocosmique, nos ancêtres, ce qui est appelé de façon scientifique les paléo-indiens, ont étudié les éléments géographiques et cosmologiques du monde naturel, puis en ont retiré un savoir détaillé. Puis ce savoir-là est maintenu en vie à travers les générations.
Mm-hmm.
Et donc, ici, en ayant géographique, cosmologique, c'est que c'est un savoir qui est holistique, donc qui inclut l'ensemble. Parce que dans les interactions avec les éléments géographiques et cosmiques, tu as autant des interactions physiques que des interactions émotionnelles ou spirituelles. Et Vanessa Watts, elle va dire que le territoire est vivant et pense. Et que, dans le fond, la mère Terre, on dérive notre agentivité d'elle. Donc, on peut aller plus loin et même dire que, contrairement aux sciences occidentales, qui met l'humain sur un piédestal, qui met l'humain qui observe un objet qui est l'univers,
mm-hmm.
Ben, dans une perspective comme ça, en fait, l'humain fait partie de ce tout-là, puis tire ses savoirs de ce tout-là. Donc, c'est pas un acteur désintéressé ou c'est pas un objet séparé. Fait partie de tout ça. Tout ce qui fait partie de la mère Terre aussi.
Selon ces modèles-là, comment apprendrait-on tout ce savoir géocosmique holistique-là?
Les façons d'apprendre sont similaires chez les Anishinaabeg et chez les Mi'kmaq. En fait, les Anishinaabeg et les Mi'kmaq ont les mêmes ancêtres. Donc, la transmission intergénérationnelle s'est faite de façon similaire, du moins pendant plusieurs milliers d'années. Alexander Denis, qui est un chief captain Mi'kmaq, pour lui, il y avait quatre sources de savoir Mi'kmaq. Les relations spirituelles, l'intuition, la transmission orale et l'expérience. Donc, les relations spirituelles, ça peut se faire pendant des cérémonies, en communiquant avec les esprits. Tu as un savoir intuitif avant d'agir. C'est peut-être issu de tes ancêtres, c'est peut-être dans tes gènes. Donc, c'est un savoir qui est transmis d'autres façons qu'une façon raisonnée, si je peux dire. Avec la raison. Beaucoup de communautés vont écrire des savoirs, mais certains savoirs vont être exclusivement oraux, ou il y aura un avertissement avant les textes pour dire ce savoir-là, il a été écrit, donc il n'est pas complet, ou il n'est pas adapté à toutes les situations. Et on a l'expérience, qui est une grosse partie aussi de l'apprentissage, généralement des apprentissages autochtones dans la région.
OK.
Et ça, on peut vraiment voir ça aussi dans la roue de médecine Anishinaabe avec Nicole Bell, qui, un peu le cycle d'apprentissage, c'était de prendre conscience de qu'est-ce qu'on doit apprendre, de le répliquer, de l'appliquer dans des situations et de l'enseigner.
Donc, encore une fois, 4 étapes au cycle.
Ouais. Et ça, on peut voir ça dans le récit de la création Mi'kmaq. Donc, nos lois, nos modèles, nos coutumes sont généralement transmises dans les récits. Donc, à place d'avoir un corpus de texte avec loi telle, article 1, ça va être dans les récits. Et un de ces modèles-là, c'est Glooskap. Glooskap, c'est ce qu'on appelle un héros de la culture. Donc, c'est quelqu'un qui enseigne aux premiers humains. Là, les enseignements sont spécifiques. Là. Dans des sociétés agricoles, ça va souvent être l'agriculture. Mais dans l'exemple des Mi'kmaq, ça va être l'astronomie, la pêche, toutes ces affaires-là. C'est un personnage qui se retrouve aussi dans d'autres cultures algonquiennes, sous d'autres noms, comme Nanabojo ou Chakapesh. Et encore une fois, c'est normal parce que dans le fond, Glooskap, c'est notre enseignant commun. D'après ça, il a juste changé de nom. Et Glooskap, quand il est né déjà des éléments, donc déjà on voit qu'il fait partie de la Terre, pas quelque chose de séparé. Il va apprendre à partir des 4 sources de savoir. Une des premières choses qu'il va faire, c'est voyager. Il va donc expérimenter, il va apprendre de son environnement. C'est une intuition aussi, il s'est levé puis il a voyagé. C'est ce qu'il a fait. Quand il rencontre sa grand-mère va lui enseigner comment se nourrir par la tradition orale. Il va aussi expérimenter parce qu'il va tuer martre, il va tuer la martre pour pouvoir la manger, puis il va cuisiner. Donc, il a l'expérience là. Non seulement ça, mais quand il tue martre, son intuition, ses émotions vont l'amener à certaines actions. Par exemple, demander pardon. Donc, il y avait du savoir issu de là. Mm-hmm. Et il va rentrer en relation avec l'esprit de martre, qui va le mettre en relation avec le monde des esprits aussi. Et martre va lui enseigner comment faire des cérémonies, des rituels, pour quand on tue un animal. Donc, on voit vraiment Glooskap apprendre des 4 sources de savoir. Et ça, c'est juste une toute petite partie du récit. Si tu regardes juste cet exemple-là de manger, si on essaie de l'appliquer avec la roue de médecine, qui est Anishinaabe, mais qui fonctionne bien aussi, en premier, quand Glooskap rencontre grand-mère, il prend conscience de comment il faut se nourrir, il voit, il observe. Ensuite, il réplique. Et ensuite, il va l'appliquer parce que après ça, c'est dit que Glooskap il va vivre longtemps avec sa famille. Donc, il va mettre en application comment faire la nourriture, comment aller en chercher, etc. Et éventuellement, quand les humains sont créés, il va enseigner aux humains comment réparer la nourriture. Donc, on voit vraiment le cycle continuer. Mm-hmm. Et après avoir l'enseigné, tu apprends aussi encore. Donc, tu reviens dans... la roue, elle n'arrête pas. C'est pas quelque chose de linéaire. Donc, on voit vraiment un modèle dans nos récits de comment apprendre. Puis ce modèle-là, c'est notre premier enseignant, qui est aussi, d'une certaine manière, le premier, du moins, humanoïde, là, c'est pas un humain, qui apprend aussi. Il est à la fois élève, à la fois enseignant.
Mm-hmm.
Dans la Genèse, les humains sont créés après le reste de l'environnement. Mais contrairement à la Genèse, les humains, Glooskap, etc., vont faire partie de l'environnement, vont apprendre de l'environnement. Contrairement à la Genèse, où par exemple, ils vont nommer les animaux, Glooskap, Nanabojo, Chakapesh, peu importe, va demander c'est quoi le nom. Donc, on voit vraiment les différences d'approche aussi dans le savoir qu'il acquiert par son interaction avec l'environnement.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un récit qui est millénaire.
Merci Steph et Nicholas Lucas. On prend une courte pause de l'entrevue, le temps d'un petit segment musical, et on revient tout de suite après.
On a entendu en musique la chanson Motescano, Les sentiers de nos ancêtres de Laura Nikwe, en début d'émission. Ça vient de son album Waska Matisiwin, qui est sorti au printemps 2021. Et Laura Nikwe, c'est une artiste atikamekw, et sur cet album, elle chante entièrement dans la langue atikamekw. Et puis là, on s'en va écouter Wilderness Walk Under the Moon de l'album My Soul Remainer de Laura Ortmann, qui est une artiste visuelle, compositrice et musicienne apache basée à New York, qui se décrit comme une sculptrice de son et d'atmosphère. Bonne écoute!
Il y avait des choses que tu ne nous as pas nommées, tu voudrais rajouter en lien avec la pratique enseignante des modèles autochtones dont on parle depuis tantôt?
Bien, plusieurs pratiques qu'on va voir dans des milieux scolaires vont parvenir des aînés pour enseigner. Ça, c'est une grosse affaire qu'on va voir, autant dans les milieux universitaires qu'on voit de plus en plus que dans les écoles, comme les écoles de réserve.
Mm-hmm.
Certaines pratiques vont être aussi, par exemple, dépecer un orignal. Donc, ça peut arriver dans une école, qu'un chasseur tue un orignal, on amène l'orignal dans le gym, puis là, on enseigne comment prendre soin, comment le dépecer, puis après ça, comment utiliser sa fourrure aussi, etc. Puis on va manger l'orignal, on va préparer, on va cuire la viande. Donc, c'est tout plein de pratiques traditionnelles qui peuvent bien s'intégrer parce qu'on a les espaces, on a les ressources dans les écoles pour ça aussi. C'est sûr que ça peut être limité dans certains contextes, surtout les contextes urbains, ou des contextes où que c'est des écoles qui sont majoritairement allochtones. Un des aspects qui est le plus négligé dans ces contextes-là va être l'aspect spirituel. Surtout les Québécois. Les Québécois ont horreur de voir la religion, sa place publique et dans les écoles. Et on voit déjà culture religieuse se faire tasser pour un cours de citoyenneté. Donc là, l'aspect spirituel peut être mal vu ou peut être vu comme étant juste symbolique ou juste pas pris au sérieux souvent. Oui. Puis c'est dans le contenu aussi, par exemple, en sciences. La vision, quand en science, tu es dans le chapitre de géologie ou de biologie, tout ce qui n'est pas humain n'est pas vivant ou n'a pas d'âme. C'est pas la même chose. Donc, en intégrant des approches autochtones, on peut en parler différemment. On peut parler de la Lune comme pas étant seulement une roche dans l'espace, mais comme une relation, comme grand-mère, peu importe la relation que les personnes ont avec la Lune. Et ça va avoir un impact sur, dans le fond, c'est la vision du monde. Ça va avoir un impact après ça sur les relations que les élèves entretiennent avec l'environnement. Puis dans d'autres espaces aussi, par exemple en mathématiques, les exemples mathématiques, à place de dire qu'un tel a acheté 24 melons d'eau puis en achète 13, combien il en reste, bien peut-être qu'on peut inclure des activités autochtones, par exemple, une qui est souvent utilisée dans les mathématiques, c'est le beading, le perlage. Tu peux compter combien de perles tu auras besoin. Donc, c'est des fois, ça peut rester dans un contexte scolaire occidental avec des mathématiques, tout ça, mais des mises en situation qui sont plus culturellement appropriées que des élèves autochtones, en particulier parce que beaucoup d'entre eux vont avoir connu ça.
Moi, je me demande, là, en tant que personne blanche, en tant que travailleuse dans un système québécois blanc occidental, comment est-ce que je peux m'inspirer de ces modèles-là et ne pas tomber dans l'appropriation culturelle?
Bien, déjà, ça va être d'avoir les bonnes sources, que ce soit de rencontrer des personnes qui sont autochtones, qui travaillent là-dedans, ou de lire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'académiciens, d'académiciennes aussi qui écrivent là-dessus. Donc, si tu es habitué à des articles académiques, universitaires, c'est très possible aussi. Donc, il y a de plus en plus de ressources, de livres, de manuels aussi qui sont développés par rapport à ça, des vidéos, des podcasts, peu importe. Donc, vraiment, avoir une diversité aussi d'informations, ça va aider. Et une des choses importantes aussi, c'est que tout aspect spirituel devra être confirmé par d'autres, parce que ça peut être quelque chose d'assez gros, là, où ce qui peut avoir des erreurs importantes puis significatives. Donc, je pense que c'est ça la première chose, c'est avoir les bonnes sources et entrer en relation avec des personnes autochtones qui s'y connaissent aussi.
Avant qu'on se quitte, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de la légende des sept feux, qui est un récit que moi, tu m'as raconté pendant le bac, mais qui m'a énormément marqué et qui, je trouve, répond à certaines des questions en lien avec l'éducation qu'on s'est posées, qu'on se pose, c'est-à-dire pourquoi enseigner, qu'est-ce qu'on enseigne.
Oui, alors la prophétie des sept feux, c'est une prophétie Anishinaabe, qui est partagée par les peuples algonquiens, qui est de plus en plus aussi panautochtone, qui est partagée de plus en plus à travers l'Amérique du Nord en particulier. Je ne suis pas porteur de la prophétie du Wampum, là, donc pardonnez-moi mon raccourcissement de la prophétie. Mais dans le fond, c'est qu'il y a des prophètes qui sont venus voir nos ancêtres. Et à chaque nuit, il y a un nouveau prophète qui est venu annoncer un feu qui est une époque, qui est une ère à venir. Les premiers feux vont parler du déplacement, de la séparation des Algonquins de l'Est, par exemple les Micmacs, avec les autres Algonquins comme les Anishinaabeg, et leur migration jusque dans la région de l'Outaouais, des Grands Lacs, etc. Les feux qui suivent, c'est l'arrivée des Blancs, les pensionnats, le génocide. Le septième feu, c'est un feu où que, il y a deux gros aspects importants par rapport à l'éducation. Premièrement, les jeunes autochtones vont retourner vers les aînés. Les aînés vont réenseigner aux jeunes. Donc, on va se reconnecter dans les savoirs, on va reconnecter les savoirs. Et deuxièmement, les Blancs vont être devant un choix, soit de continuer le chemin du matérialisme, et ce qui va mener à destruction du moins de leur civilisation, si c'est pas de l'humanité en entier, ou de retourner vers des savoirs plus harmonieux avec la Mère Terre. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais, parce que déjà, ceux qui portent la profession ont dit qu'on était dans ce feu-là. Donc, la décision est là. C'est là qu'il faut la prendre. Puis, je pense qu'on peut le voir aussi, les changements climatiques aussi s'accélèrent. Donc, il faut vraiment changer notre éducation. Il faut changer notre approche par rapport au savoir, puis notre approche avec la Mère Terre. C'est là qu'il faut faire ça.
Mm-hmm.
Le choix est maintenant.
Oui, le septième feu, c'est maintenant, puis ça va sûrement être déterminant pour les feux à venir. S'il y en a, s'il y a d'autres feux autres que des feux de forêt, on espère. Sur cette note, un grand merci, Nick. Ça me fait tellement plaisir d'avoir fait cette entrevue-là avec toi. Un peu étrange de l'enregistrer, parce que souvent, moi puis toi, on a des grandes discussions sur l'éducation, puis moi puis toi, on adore ça, critiquer. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir t'interviewer sur un sujet qui nous tient les deux vraiment à cœur et qui continue d'enrichir mes réflexions, comme d'habitude, là, depuis que je t'ai rencontrée. Là, j'apprends plein d'affaires. Fait que, make witch!
Oula, Aline, merci à toi.
Merci infiniment à Steph et à Nicholas Lucas pour cette magnifique entrevue, pour la générosité de votre partage. Merci, Kim, de nous faire découvrir de la musique, de cultiver notre oreille. Merci aussi à Sonia, Fauve, Dim et Da pour la recherche, le montage, l'écriture et tout le reste. On voulait aussi mentionner qu'En jasant près du fleuve ne publiera pas de nouveaux épisodes avant que la neige fonde et que les arbres soient en fleurs. Nous allons prendre le temps de nous réunir et de trouver notre rythme. Au plaisir, donc, de vous retrouver dans quelques mois. Avant de vous quitter aussi, nous aimerions vous faire entendre un commentaire important de Nicholas Lucas par rapport à l'entrevue. Durant celle-ci, Steph utilise plusieurs fois le mot « légende » dans un contexte qui est inapproprié. Nicholas Lucas a généreusement pris le temps de nous expliquer pourquoi le terme « récit » était plus approprié. Merci du fond du cœur de nous aider à nous éduquer. On vous laisse donc sur ces mots.
En passant, je veux dire que le mot « récit » est plus approprié que les mots « légende » ou « mythe ». Parce que les mots « légende » et « mythe » mettent un jugement sur le récit qui fait en sorte qu'il serait pas vrai ou tout inventé. Donc, un récit, au moins, on laisse aux gens interpréter si c'est vrai ou non. Par exemple, il y a des gens qui croient au récit de la création, et il y en a d'autres qui croient que c'est une légende ou un mythe.
Merci d'avoir été parmi nous. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos sur l'actualité, les sujets abordés et les levées de fonds en cours, ou encore sur la musique et la littérature que vous avez entendue, rendez-vous sur notre page baladoquebec.ca pour les liens externes. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram, iTunes, Google Play, Spotify et baladoquebec.ca en écrivant « En jasant près du fleuve ». Vous êtes plus que bienvenue à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. On espère que vous avez apprécié votre moment en notre compagnie et on se retrouve bientôt pour un autre épisode d'En jasant près du fleuve.
Maintenant, voici des nouvelles directement pertinentes à votre vie. Jeunesse Lambda organise un pique-nique pour les jeunes trans et non-binaires de 14 à 30 ans. Cet événement gratuit aura lieu ce samedi 23 juillet à 13h30 au Parc La Fontaine. La nourriture sera offerte, mais vous pouvez aussi apporter votre propre repas. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Jeunesse Lambda. Et vendredi dernier a marqué le retour du marché fermier du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Chaque vendredi de 13 à 18 heures, vous pouvez acheter des produits frais et locaux à l'angle des avenues Monkland et Old Orchard, près du taverne Monkland. Si vous n'êtes pas un résident de NDG, il y a au moins 14 autres marchés de fermiers de quartier à Montréal cet été. Recherchez MTL Blog Farmers Markets pour plus d'informations. Et le Grand Poutine Fest a démarré à Montréal la semaine dernière. Il se déroule au Vieux-Port jusqu'au 31 juillet et offre plusieurs combinaisons de saveurs créatives. Cette année, toutes les poutines sont servies dans des plats réutilisables et une partie des bénéfices sera donnée à l'opération Enfants Soleil, une organisation sans but lucratif. Pour en savoir plus, recherchez le Grand Poutine Fest sur Facebook.